Et vous êtes toujours sur Radio Bartas sur le 107. Il est 13h11 et on accueille maintenant les nouveaux invités. Bonjour Claudine Albouy.
Bonjour.
Donc tu fais partie des amis de la bibliothèque de Florac.
Voilà, oui.
Et vous invitez ce soir Anne Tarot qui est avec nous aussi. Bonjour Anne.
Bonjour.
Pour un livre qui s'intitule « Attends maîtresse, faut que je mette dans ma tête ». Mais avant de parler de ce livre, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu l'association des amis de la bibliothèque de Florac ?
Voilà, ben, l'association des amis de la bibliothèque met donc en place des animations un petit peu pour tous les âges, hein, que ce soit pour les tout petits avec l'intervention par exemple de Contlico, qui s'adresse aux jeunes femmes qui gardent les enfants dans Florac, qui s'adresse à la crèche. On essaie de toucher un petit peu toutes les tranches d'âge. Hein. Mm-hmm. On a aussi des stages qui sont organisés. Là, on vient d'avoir un stage, par exemple, de bande dessinée avec un groupe d'adolescents, donc des adolescents de Florac et de sa région. Et ce stage a été encadré par Xavier Boulot. Donc Xavier Boulot est lui-même dessinateur de bandes dessinées. Il a fait l'école d'Angoulême et donc il s'était proposé. Il est adhérent de la bibliothèque de Florac. Il vient donc très souvent pour lui et pour ses enfants. Et il nous avait fait cette proposition. Mmh. Donc comme on a toujours des grandes oreilles qui traînent partout, ben voilà, on a dit oui. Et donc il est venu encadrer ce stage qui a très bien marché. On a fait une petite exposition des travaux des adolescents avec un vernissage la semaine dernière à Florac, à la bibliothèque.
On peut toujours voir cette exposition ?
Elle est toujours visible.
D'accord.
D'ailleurs, les gens qui viendront écouter Anne Tarot ce soir pourront la voir en même temps. Voilà. Et sinon, elle sera aussi exposée au Festival de la bande dessinée à Saint-Enimy.
D'accord.
Voilà. Et puis, ben, on va essayer de la faire circuler parce que c'est vraiment un très joli travail qui a été fait sur peu de temps, sur trois séances de trois heures et vraiment avec des techniques vraiment très chouettes où Xavier Boulot a vraiment su mettre en valeur la personnalité des dessins des enfants, mmh, hein, pour les orienter. Donc, c'est en noir et blanc. Et puis ça a de la gueule, voilà, vraiment.
Il faut aller à la bibliothèque pour
voir
ça.
On est très fiers des ados qu'on fait ce travail.
Il y a d'autres projets, peut-être pour les vacances qui arrivent,
voilà,
ou pour d'autres moments ?
Alors on a un projet qui va se passer cette fois-ci avec une tranche d'âge de 11-14 ans. C'est d'ailleurs la même tranche d'âge qu'on avait pour les bandes dessinées. C'est le 5, le 6 et le 7 mai avec Poussy Paris. Donc Poussy Paris est une artiste qui intervient sur la région. Elle est graveur, elle fait plein de choses en fait. Hein.
C'est une plasticienne.
Elle a fait aussi un travail sur la guerre. Donc ça va être exposé aussi à la bibliothèque, ça. Mais bon, c'est une initiative vraiment de la bibliothèque Roger Sibien, des bibliothécaires. Et sinon, là, nous, elle va vraiment intervenir sur un travail sur les cadres, c'est-à-dire qu'elle va proposer aux enfants des cadres de toute taille, de différentes sortes de tailles. Et à partir de là, on va leur donner des déchets propres, hein, bien sûr, des déchets intéressants, voilà. Et avec du fil de fer, avec plein de techniques, de la ficelle, ils vont créer des cadres qui vont s'animer. À partir de là, ils vont construire une histoire. Et la finalité, c'est qu'il y aura une partie papier qui va être faite. Il y aura vraiment des petits livres qui vont être réalisés pour les jeunes qui auront fait cet atelier.
Et ces cadres seront exposés dans la bibliothèque
Oui, ça va même peut-être être dehors parce qu'il y aura des tailles assez conséquentes. Donc à la bibliothèque, je ne sais pas, mais peut-être dans les arbres de la cour commune avec le foyer rural, voilà. Et ça, c'est le 5, le 6 et le 7 mai.
D'accord.
Et donc c'est de 9h30 à midi et de 14h à 17h30. Par contre, il y a un pique-nique qui est proposé, donc les enfants viennent avec le pique-nique et le foyer rural de Florac sera là pour rester avec les enfants parce que c'est aussi le moment du repas, c'est vraiment un moment important pour échanger. D'accord. Et puis pour continuer à travailler d'une autre manière. Voilà.
Et donc, il faut s'inscrire, j'imagine, pour
participer. Voilà, il faut s'inscrire. Donc, il faut s'inscrire soit au foyer rural de Florac, soit au 06 84 18 27 55, soit à la bibliothèque Roger Sibien de Florac.
Très bien. Donc ça, un nouveau stage organisé 5, 6, voilà. 7 mai, je rappelle.
Allez-y. Oui, ce qu'on essaie, il n'y a pas que les enfants, on développe beaucoup les activités enfants, ben voilà, c'est lié aussi à la personnalité des gens qui actuellement sont dans le bureau, et ça nous permet surtout grâce à l'aide de la communauté de communes du pays de Florac, Tarnon-Mimente, d'avoir ces fameux CEL, donc les contrats d'éducation locaux, et qui sont aussi vraiment une bouffée d'oxygène pour pouvoir assurer le paiement des intervenants aussi, voilà. Ouais. Et puis aussi, grâce aussi à la dotation du Conseil Général avec M. Argilet et bien sûr la mairie de Florac.
Très bien. Tout le monde a été cité.
Et beaucoup de bénévoles.
Et beaucoup de bénévoles, oui. Et donc, d'autres événements que vous organisez, on en a déjà parlé ici, c'est des rencontres qui s'intitulent « Ils écrivent chez nous ». Elles écrivent chez nous aussi. C'est où j'ai vu. Et donc, avec.
C'est le masculin qui l'emporte.
Oui, paraît-il. À la bibliothèque, ce soir à 18h30, donc le prochain rendez-vous tout à l'heure avec Anne Tarot. Peut-être je te laisse présenter puisque c'est votre invitée.
Oui, puis je voulais surtout dire que cette série a été mise en place. On a commencé au dernier trimestre donc de 2013. On a mis cette série en place parce qu'on souhaitait que des gens qui écrivent localement sur la région puissent présenter leurs ouvrages sans que ce soit forcément sur la Lozère. Il y a de très belles choses qui sont écrites, mais on voulait sortir un petit peu de ce cadre. Donc le premier, ça a été Marc Lemonnier avec Mont Blanc. La seconde, un roman sur un itinéraire sur le Mont Blanc. Et la deuxième, c'était Catherine Pita et on avait choisi...
Jeanne Lapeyrouse. Non,
celui d'avant. Ah, où oui. En fait, ce sont des nouvelles. Pardon Catherine si tu nous entends, j'ai un trou. Donc c'est des nouvelles qui ont un petit côté fantastique et qui parlaient beaucoup au niveau du mot. Donc on avait choisi des nouvelles, ce qui changeait. Et là maintenant, donc on a fait appel à Anne Tarot qui vient donc de sortir le livre. Attends maîtresse, faut que je mette dans ma tête. Bon, et ce qui nous a intéressé, c'est que c'est quand même l'apprentissage... L'apprentissage qui laisse une chance à tous les enfants et même aux adultes. Tout le monde peut apprendre. Mais il vaudrait mieux que ce soit Anne qui
nous parle de son
qui
livre.
Qui nous parle de son livre, ça sera bien mieux. En tout cas, on vous attend à la bibliothèque à 18h30 ce soir. Et sachez qu'il y aura un petit apéro grignote. Voilà.
Alors Anne, ce livre donc, en sous-titre, on trouve « Pratique de la gestion mentale dans une classe de CM1, CM2 en ZEP ». Donc c'est en fait le résultat d'expériences qu'on va retrouver dans ce livre.
Voilà, donc pour tout dire, j'ai commencé la pratique de la gestion mentale à Florac. Voilà, parce que j'ai habité la Lozère donc, pendant 9 ans et c'est la raison pour laquelle Claudine m'a proposé de venir. Voilà.
D'accord.
Donc ça a commencé en fait juste derrière, là au CEP de Florac, puisqu'on m'avait parlé des travaux d'Antoine de la Garandrie, Florence Guérin m'avait parlé de cet ouvrage, j'ai travaillé avec des instituteurs d'Hispaniac, puisque j'ai été institutrice en Lozère pendant 3 ans. Et là-dessus, pour des raisons professionnelles, je suis partie dans le sud de Florac, puisque j'étais à l'UNEL. Et là, j'ai suivi des formations, je me suis spécialisée dans la gestion mentale. J'ai pris ma retraite et tout le monde me disait « c'est dommage que tu partes sans faire partager ton expérience ». J'étais en réseau avec le réseau national de la gestion mentale sur les travaux d'Antoine de la Garandrie et on m'a dit « écris, écris ». Moi, je n'étais pas partie pour écrire au départ parce que je l'utilisais tellement. Pour moi, c'était comme la craie pour... dans la classe, c'était tellement banal finalement pour moi. Et mes collègues m'ont offert un ordinateur avant de partir à la retraite pour que j'écrive mon livre. Alors là, double motivation. Et les enfants et les parents qui ont eu des retours sur cette méthode m'ont tellement dit que ça avait été très très fort pour eux et ça a été le moteur de mon écriture. Et pour la petite histoire aussi, comme j'arrivais pas à finir le livre, parce qu'en tant que retraitée, on a toujours plein de choses à faire, je suis venue aussi en résidence d'écriture à Espagnac pour finir le livre.
D'accord.
Voilà, donc j'ai quand même, je ne suis pas lausérienne, mais j'ai des liens très forts avec la Lozère. Mmh.
Mmh. Alors, qu'est-ce que c'est que cette gesture mentale? C'est une technique pédagogique?
Alors, c'est Antoine de la Garandrie, donc, qui est un chercheur en neurosciences, hein, qui s'est penché justement sur les problèmes de réussite et de construction de la réussite. Donc, il s'est vraiment posé la question, comment ça se fait qu'il y avait des enfants qui réussissent très bien et d'autres qui ne réussissent pas? Là, il n'est pas allé étudier ce que réussissait pas, contrairement à ce qu'on fait beaucoup, il est allé voir les fonctionnements mentaux. Parce que le geste mental, gestion mentale, au départ, c'est un terme, moi, qui me plaisait qu'à moitié, parce que qui dit gestion, dit économie, dit éventuellement comptabilité, donc je ne voyais vraiment pas ce que ça avait à faire dans un apprentissage, et en fait, gestion mentale, ça correspond au terme les gestes mentaux. Quand on apprend, quand on veut retenir, il y a forcément à chaque fois des gestes qui se passent dans le cerveau.
C'est la gymnastique que doit faire le cerveau pour retenir les choses.
Voilà, fabrication des images mentales. Et là, donc, il s'est rendu compte que pour les enfants qui étaient performants, mais il est allé voir aussi des musiciens, des théâtreux, toutes les personnes qui étaient en réussite. Et il s'est rendu compte qu'il y avait vraiment deux grands axes, moi, qui m'ont énormément servi dans les classes. Donc, il y a l'évocation, il a bien cibler ce que c'était qu'une évocation mentale et aussi la mise en projet, parce qu'il n'y a pas d'apprentissage sans motivation.
Voilà. Et l'évocation, c'est quoi alors?
Alors,
il y a plein de questions qui viennent.
Voilà, alors, l'évocation, bah, si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, bien sûr, je l'expliquerai ce soir. Mais en termes, il a symbolisé l'apprentissage en trois phases. Une phase de perception, où on voit, où on entend. Une phase d'évocation, qui est un temps où l'enfant, où les personnes qui sont en apprentissage, mais on en fait tout le temps nous-mêmes hein, en tant qu'adultes. Et ensuite, la restitution. Voilà. Et les très bons élèves, ils ont un temps des perceptions et des vocations qui sont quasiment concomitants, l'art de quart de seconde. Par contre, les enfants qui sont un peu plus en difficulté ont besoin d'un peu plus de temps, qu'on leur laisse du temps de silence pour pouvoir fabriquer leurs images mentales.
Donc cette méthode, vous l'avez utilisée dans vos classes?
Alors moi, je l'ai utilisée pendant 20 ans, en fait, hein, dans la classe. En plus... Là, j'étais institutrice à Blajoux, dans les Gorges du Tarn, avec 11 élèves, et je suis arrivée dans une école à Lunel, 300 élèves, ZEP, avec des enfants en grosse difficulté. Et là, la gestion mentale a été pour moi d'une aide vraiment inestimable. Et comme comme je travaillais tout le temps avec cette méthode, j'ai expliqué aux enfants cette méthode. Je leur parlais des travaux d'Antoine de la Garandrie, je leur parlais des vocations, je leur parlais des trois cerveaux, je leur parlais des paramètres. Et tout ça, c'est des notions qui sont assez complexes, mais que les enfants comprenaient très bien. À tel point qu'on disait toujours « Ah, Madame Tarot, elle a une méthode ». Voilà, donc ils étaient au courant qu'il y avait, pour réussir, il y avait à mettre en place des stratégies.
D'accord. Voilà. Et donc avec des résultats positifs tout au long de ces 20 ans
Oui. Et énorme. Et surtout, ça calme les classes, parce qu'on a beau dire en ZEP, c'est quand même des classes qui sont extrêmement agitées. Et là, c'est une façon de travailler qui calme les classes. Et au départ, je l'ai beaucoup utilisé en français et en maths. Et après, je l'ai utilisé partout, en sport, en dessin, en musique. Et ça faisait des enfants certains enfants ont complètement décollé avec cette façon de travailler.
Et est-ce que c'est une méthode qui est... encouragé par l'éducation nationale?
Pour l'instant, pas trop.
Il faut du temps.
Voilà, il faut vraiment beaucoup de temps. Par contre, en Belgique, au Canada, c'est déjà très performant. D'ailleurs, là, je l'ai écrit. Bon, je suis auto-éditeur, en fait. Hein, et j'en vends énormément par le bouche à oreille. On devait faire un site internet. On n'a même pas eu le temps encore pour l'instant. Et j'ai eu des très beaux articles qui sont sortis en Belgique. Et là, je vends pas mal aussi en Belgique. Mais la gestion mentale en France a du mal à démarrer. Alors, les raisons, pour moi, c'est un véritable mystère, parce que ça coûte rien. En fait, il n'y a besoin d'aucun matériel. Ça peut être appliqué à n'importe quelle pédagogie et à n'importe quel niveau. Et plus on fait des évocations très tôt, dès la maternelle. Moi, je l'avais testé en maternelle, en classe unique. Ça fonctionnait vraiment très, très bien. Et c'est utilisé, bien sûr, jusqu'à l'université. Mais c'est vrai que l'école primaire, c'est quand même le berceau des bases. Et si on pouvait développer l'utilisation de cette méthode, moi, bien sûr, j'en serais ravie, mais c'est absolument pas exhaustif, c'est pas miraculeux, mais c'est vraiment un outil supplémentaire pour la construction de la réussite.
Est-ce que c'est abusé ou est-ce que je peux vous demander un exemple un peu plus précis? Sur un exercice, par exemple, quelle différence d'approche il va y avoir?
Alors, par exemple, si on parle vraiment technique purement d'apprentissage, si dans toutes les classes, on apprend, on leur demande d'apprendre des mots en orthographe, que ce soit du CP au CM2, on leur demande d'apprendre des mots. Alors, il y a des parents, des fois, qui s'énervent, qui font copier 100 fois le mot. Et puis, au bout d'un temps, on fait la dictée, il y a encore la faute. Donc, pourtant, l'enfant fait le travail et ce n'est pas resté. Voilà.
Ouais.
Donc, par exemple, le mot, on va leur demander, par exemple, de regarder le mot continuellement, de bien le photographier ou de l'épeler, parce qu'il y a des enfants qui fonctionnent de façon auditive ou de façon visuelle. Donc, il va regarder le mot continuellement, il va fermer les yeux, c'est-à-dire qu'on ne va plus être en perception, on va être en évocation. Donc, il va se fabriquer une image mentale du mot. En fait, il faut appuyer, on leur dit que le cerveau, c'est comme un appareil photo ou un magnétophone, il faut appuyer sur un bouton si on veut enregistrer. Si on ne fait que le regarder, il ne va pas le retenir. Alors, toutes les théories, vos enfants ont qu'à lire, ils ne feront pas de faute d'orthographe. Ça ne fonctionne pas. Moi, j'ai vu des enfants qui lisaient énormément et qui faisaient plein de fautes d'orthographe.
Il faut trouver le bouton de l'appareil photo.
Faut trouver le bouton de l'appareil photo et avoir un temps, bien sûr, pour pouvoir le mémoriser.
D'accord. Voilà.
Donc, toutes les leçons étaient commencées déjà par une évocation, se souvenir de ce qu'on a fait la dernière fois et se terminer par une évocation en disant maintenant, on arrête, on prend un temps de silence et on se remet dans la tête tout ce qu'on s'est dit.
D'accord.
Voilà. Okay. C'est un peu rapide tout ce que je vous dis parce que des notions un peu complexes. Et puis après, il y a des notions très intéressantes. Alors, c'est vrai que c'est un livre qui est plutôt à usage des enseignants, mais les trois quarts de ma réunion de parents, je les faisais sur ça et ils me disaient que c'était vraiment très intéressant pour eux. Et à la lecture du livre, il y a même des chefs d'entreprise qui m'ont dit, moi, je m'en suis servi maintenant dans mon entreprise. Parce que l'apprentissage, il est à tous les niveaux. Quand on reçoit une secrétaire qui va faire le travail, il est à faire. Laisser le temps aux gens de pouvoir se fabriquer leur propre système de référence.
Donc ça peut aussi aider donc des parents qui accompagnent la scolarité de leurs enfants.
Oui, alors pour tous ceux qui vont accompagner des enfants en soutien scolaire, que ce soit les parents, que ce soit les enseignants, mais c'est vrai que là, dans le livre, je décortique des leçons, ce qui n'est pas forcément passionnant pour des gens qui n'ont pas de classe. Alors c'est vrai que j'ai un très bon écho par rapport aux orthophonistes et par rapport aux enseignants, par rapport à la réception de ce livre. Mais surtout, la gestion mentale, on en fait tout le temps. Si on veut retenir un numéro de téléphone, il y a plusieurs façons. On va développer des stratégies différentes. Si on n'a pas de crayon, par exemple, pour le noter. Et ça, on s'en sert tout le temps. Donc,
les départements, moi je fais avec les départements, ça marche.
Certains, c'est le département, d'autres, c'est ils revoient ils revoient écrit, d'autres voient les couleurs, d'autres se répètent plein de fois le numéro de téléphone pour le retenir. Et ça, on le partage avec des petits jeux. Parce que la gestion mentale, c'est quelque chose de joyeux à la base. Parce que souvent, les livres de pédagogie, c'est absolument sinistre. Et là, ce que je voudrais partager, c'est que c'est assez enthousiasmant, en fait. Parce que c'est vraiment une pédagogie de la construction de la réussite.
Donc, pour partager votre enthousiasme, il faut se rendre à la bibliothèque de Florac tout à l'heure à 18h30. Et pour ceux qui ne pourront pas venir, comment se procurer ce livre ?
Alors, le livre, actuellement, il faut me contacter personnellement parce que j'en ai un stock à la maison. Je suis aussi en vente à la librairie AB à Lunel et la grande librairie Sorams à Montpellier. Donc. Et on a la construction d'un site qui est en prévision pour l'été. Voilà.
Très bien. Donc, auditeur, auditrice, si vous voulez un livre, écrivez-nous à Bartas et puis on vous fera passer.
Avec plaisir, avec grand plaisir. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup. Il est déjà 13h29. Merci Claudine, merci Anne. Et donc,
merci
rendez-vous
à
18h30 à la bibliothèque de Florac.
Merci, au revoir.
Merci beaucoup. Et donc, on va faire une petite pause musicale avant la suite, de vous annoncer la suite des programmes. Et du coup, j'ai choisi Maxime Le Forestier qui reprend la chanson de Brassens, La maîtresse d'école.
Oh, c'est parfait.
À l'école où nous avons appris l'ABC, la maîtresse avait des méthodes avancées. Comme il fut doux le temps bien éphémère, hélas, où cette bonne fée régna sur notre classe, régna sur notre classe. Avant elle, nous étions tous des paresseux, des lèvres nés, des cancres, des crétins crasseux, en travaillant exclusivement que pour nous. Les marchands de bonnets d'âne étaient sur les genoux, étaient sur les genoux. La maîtresse avait des méthodes avancées. Au premier de la classe, elle promit un baiser. Un baiser pour de bon, un baiser libertin. Un baiser sur la bouche, enfin bref, un patin. Enfin bref, un patin. Au pupitre d'alors quelque chose changea. L'école buissonnière eut plus jamais un chat. Et les pauvres marchands de bonnets d'âne craquent. Connurent tout à coup la faillite, le crack, la faillite, le crack. Lorsque le proviseur à la fin de l'année nous lut les résultats, il fut bien étonné. La maîtresse elle rougit comme un coquelicot, car nous étions tous pris d'excellents sex-écho, d'excellents sex-écho. À la récréation, la bonne fée se mit en devoir de tenir ce qu'elle avait promis. Et comme elle embrassa 40 lauréats, jusqu'à une heure indue, la séance dura, la séance dura. Ce système, bien sûr, ne fut jamais admis par l'imbécile alors recteur d'académie. De l'école en dépit de son beau palmarès, on chassa pour toujours notre chère maîtresse, notre chère maîtresse. Le cancre fit alors sa réapparition, le forant aimé redevenu l'exception. À la fin de l'année suivante, quel fiasco, nous étions tous derniers de la classe ex-écho, de la classe ex-écho. À l'école où nous avons appris l'ABC, la maîtresse avait des méthodes avancées. Comme il fut doux le temps bien éphémère, hélas, où cette bonne fée régna sur notre classe, régna sur notre classe.